Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau récit des bulles de l'histoire. Peut-être avez-vous pu, lors d'une visite au Louvre, vous promener dans une de ces grandes galeries et prendre le temps d'admirer tant et tant de chefs-d'œuvre qui y sont accrochés. Peut-être votre regard a-t-il été accroché par une des plus grandes toiles qui figure justement dans ce musée. Cette toile mesure pas loin de 5 mètres sur 7. Elle est une des plus sombres du musée et d'ailleurs, avec le temps, elle s'assombrit davantage et bientôt, on ne verra plus qu'un monochrome noir. Mais pour l'instant, du moins encore, on peut y apercevoir des personnages, on peut y apercevoir une scène d'horreur qui y est représenté. On peut y apercevoir un radeau de fortune, un radeau posé sur les flots dangereux et agités de la mer Méditerranée. On aperçoit à l'arrière-plan une vague déjà menaçante qui s'apprête presque à ébranler le radeau, à le faire sombrer. Au premier plan, on voit un amoncellement de corps, certains plus morts que vifs. On en voit d'autres qui agitent des guenilles. On voit un mât de fortune sur lequel tient tant bien que mal une pauvre voile. Ce que nous voyons ici est une scène qui semble vivante, comme si le radeau allait pouvoir sortir de son tableau. Comme si cette scène, nous la vivions en direct. Cette toile, c'est le radeau de la Méduse qui a été peint entre 1818 et 1819 par Théodore Géricault. Ce tableau est donc exposé au musée du Louvre. Et ce tableau n'est pas qu'une simple toile qui a fait les honneurs du salon, comme on disait à l'époque. Non, ce n'est pas une œuvre classique. Cette toile est la représentation ni plus ni moins que d'un fait divers. Un fait divers qui a défrayé la chronique. Un fait divers qui a mis au ban de la société et qui a condamné à l'opprobre son capitaine, le capitaine de la frégate La Méduse, Hugues du Roy de Chaumaret, ainsi que toute sa famille. Un fait divers qui aura montré combien les hommes peuvent basculer dans l'ignominie et surtout dans la panique la plus complète. C'est de ce récit, c'est de cette histoire dont je me propose d'être pour vous aujourd'hui la conteuse et de vous raconter donc le naufrage et l'évacuation scandaleuse de la Méduse. Bonne écoute. La Méduse. La frégate La Méduse, avant de devenir célèbre par son naufrage et son évacuation désastreuse et honteuse, était une frégate qui avait près de 6 années d'expérience à la fois dans le transport de troupes et de matériel au travers des divers océans du monde. On l'a ainsi croisée non loin des Indes néerlandaises ou également près des Antilles. Et elle a été aussi un des navires qui était prêt à escorter Napoléon Bonaparte, qui venait alors de perdre la bataille de Waterloo, qui avait signé son abdication et qui s'apprêtait donc, sous couvert de la protection, du moins de celle qu'il pensait être la protection des Britanniques, afin que celle-ci lui permette de rejoindre les côtes des Amériques. Or, ce n'est ni la frégate La Méduse, ni la frégate La Nymphe, ni la Sahal qui escorteront Napoléon Bonaparte jusqu'à son lieu d'exil. C'est bien le HMS Bellérophon qui se chargera de cette tâche et qui l'amènera non pas aux Amériques, mais bien sur l'île aux Rocheux de Sainte-Hélène. À la frégate La Méduse, on destine donc des missions militaires. Certaines sont de moindre importance, or la mission qui va justement la faire entrer dans l'histoire est une mission assez importante pour que ce soit le roi lui-même, le roi Louis XVIII, qui la décide. En effet, la monarchie vient d'être restaurée et à la restauration portée par Louis XVIII, qui est un des frères de Louis XVI, à cette nouvelle France, eh bien, on vient de rétrocéder des territoires. On vient de rétrocéder le Sénégal, justement. Et pour Louis XVIII, l'occasion est trop belle. Il faut à tout prix et au plus vite occuper ce territoire et donc y dépêcher une petite population de colons. Et c'est justement pour cela que la frégate La Méduse, que les briques, l'écho, l'argus et la flûte La Loire vont être appelés. Ces quatre navires vont donc voir se répartir près de 392 personnes. Dans ces 392 personnes, il y a des scientifiques, il y a des hommes de troupe, des fonctionnaires, il y a également le gouverneur de Saint-Louis du Sénégal, le commandant Schmaltz et son épouse, il y a également une cantinière, des soldats, bref, de quoi fournir la base à une première petite colonie. Cette petite troupe, répartie sur ces quatre navires, prend donc la mer le 17 juin 1816. Et qui commande cette flottille? Eh bien, c'est le commandant Hugues du Roy de Chaumaret que l'on trouve établi sur la frégate La Méduse. C'est lui qui va donner le ton de toute la traversée et qui va guider les trois autres navires qui le précèdent. Qui est-il, lui, Hugues du Roy de Chaumaret? Au moment de son procès, il avait 51 ans. C'est un cadre de la marine, ou plutôt de la marine royale. Rien à voir avec la marine telle que ses seconds l'ont connue sous l'Empire. Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de méritocratie. La marine royale sous l'Ancien Régime est une marine où on achète les places, où on achète les brevets. Une marine d'officiers qui est composé de façon quasi exclusive par des nobles, par de hauts aristocrates. Et c'est notamment le cas de Hugues du Roy de Chaumaret, qui est donc un royaliste convaincu. Seulement voilà, il a un handicap, Hugues du Roy de Chaumaret, et un handicap de taille. Lorsqu'il prend le commandement de cette petite troupe et de cette flottille composée de quatre navires, il n'a plus navigué depuis près de 25 ans. Autant vous dire que les cartes marines qu'il a en sa possession ne sont tout simplement plus à jour. En effet, il refuse de prendre, de lire, de regarder, d'apprendre les nouvelles cartes qui ont été mises à jour par les cadres, les nouveaux cadres de cette nouvelle marine promue au mérite. Et cette marine qui avait été refondée, justement, par l'empereur Napoléon Ier. Hors de question de se servir de quelque chose qui n'ait pas été ratifié par le roi. Et tant pis si ça les mène au désastre. Hugues du Roy de Chaumaret, du reste, n'est pas soutenu par ses officiers. Si lui est royaliste jusqu'au bout des ongles, à l'inverse, ses officiers, eux, sont des bonapartistes. Ils ne sont pas issus de la haute aristocratie ni de la noblesse. Ils ont été promus pour la plupart au mérite. « Oh, ce Gandin-là n'est pas de notre monde !» disait le lieutenant de vaisseau d'Espio. Si bien que la défiance et la détestation va des deux côtés. Comment voulez-vous que la navigation se fasse tranquillement dans de telles conditions. Et autant vous dire que Hugues du Roy de Chaumaret va avoir bien des difficultés à mener la méduse à bon port, si je puis dire. Car vu que les cartes qu'il a devant ses yeux sont obsolètes et vu que son expérience n'est plus du tout récente, il manque plusieurs étapes pour se ravitailler et cela devient fort fâcheux. Si bien que, en plus, il ne compte pas tant sur l'aide, sur le conseil et le soutien de ses seconds et de ses officiers, comme il est normal dans de telles circonstances, après tout, non. Il va utiliser le soutien et les conseils d'un des personnages, d'un des invités de marque qui est présent sur la Méduse, un certain Richefort qui a assuré de son expérience au commandant Hugues du Roy de Chaumaret en lui disant qu'en effet il avait une expérience de ces eaux. Car la mer Méditerranée n'est pas une mer calme, elle peut être une mer fort capricieuse. Elle peut être à la fois calme et déchaînée dans ses flots des tempêtes qui peuvent faire se briser des navires entiers. Or, c'est justement cette connaissance et cette confiance tout entière que Hugues du Roy de Chaumaret met en Richefort qui va sceller presque le tragique destin de la Méduse. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Hugues du Roy de Chaumaret, lui, est convaincu de son affaire. Il sait naviguer et peu importe s'il n'a pas navigué depuis près de 25 ans, il en est sûr, ses cartes sont encore bonnes et son expérience peut encore servir. Et tant pis si ses officiers ne le respectent pas, il ne les respecte pas non plus, il n'accepte pas même l'idée que des bonapartistes et pu monter sur sa frégate. Mais qu'importe, c'est lui qui commande. Et s'il a décidé de ne pas faire d'autres sondages parce que la couleur, même si elle est bien trop claire de l'eau, lui laisse présager qu'après tout, ces fameux bancs de sable si trompeurs sont derrière eux, eh bien ils sont derrière eux, c'est tout. Ils pourront continuer en direction de Madère et pourront enfin s'y ravitailler. Or, c'est justement ce refus de prendre les conseils de ses seconds qui va sceller le destin non seulement de Hugues du Roy de Chaumaret, mais même de la Méduse. Hugues du Roy de Chaumaret n'a plus navigué depuis près de 25 ans, autant vous dire que ses cartes de marine sont totalement obsolètes et que malheureusement pour lui, il a très mal établi la distance qui sépare le banc d'Arguin, ce banc de sable que les cartes de marine de l'époque indiquent pourtant fort bien, de l'endroit où se trouve à ce moment-là son propre navire. Et c'est ça tout le problème. La côte mauritanienne est une côte assez incertaine. Il y a bon nombre de bancs de sable qui joue à cache-cache. Si les hauts fonds sont d'importance au large, plus on se rapproche du littoral, plus justement les sondages font état d'un fond qui est à quelques mètres. Or, ces quelques mètres peuvent signer la fin de navire et en précipiter l'échouage. Et c'est ce que la Méduse va très bientôt apprendre à ses dépens. Hugues du Roy de Chaumaret est persuadé d'avoir dépassé ce fameux banc d'Arguin. Il est persuadé d'avoir dépassé ce grand banc de sable et même de l'avoir contourné. Nous sommes aux premières heures de cette matinée du 2 juillet 1816. Un jeune enseigne observe le soleil se lever et commencer à se refléter sur l'eau. Or, la couleur de cette eau lui semble bien trop claire. S'ils avaient véritablement dépassé le banc d'Arguin, le fond ne devrait pas lui sembler si proche. Il prend donc de sa propre initiative et contre l'avis même du commandant qui avait refusé de refaire de nouveaux sondages, de sonder de lui-même. Et là, horreur, malheur, le fond n'est plus qu'à 6 brasses. Autant dire que la coque de la méduse touche presque le fond. Le jeune enseigne va pour en avertir les officiers. C'est le branle-bas de combat. Le commandant, lui, est dans sa cabine et voyant qu'il y a de l'activité sur le pont de commandement, il se décide à sortir. On finit par l'en avertir et il tente de réagir vite et fort. Il va donc faire virer de bord de toutes ses forces le navire. Mais c'est trop tard. La méduse finit par s'échouer. Elle s'échoue ce 2 juillet 1816 sur ce fameux banc de sable, le banc d'Arguin, à 15h. Seulement voilà, elle a choisi un fort mauvais moment pour s'échouer, la frégate. Elle s'échoue à marée haute. La marée va descendre et bientôt la méduse ne sera plus portée par l'eau. Mais me direz-vous, il y avait avec la méduse 3 autres navires. Ces 3 autres navires vont-ils partager le même sort funeste que la méduse et vont-ils eux aussi s'échouer? Eh bien non! Les 3 autres navires vont prendre leur distance avec la frégate la méduse. Et c'est ce qui va en partie sceller son destin. Hugues du Roy de Chaumaret ne va d'avoir de cesse de les distancer. Il trouve ces 3 navires trop lents et surtout ceux-ci essaient de l'avertir. Ils envoient même des sortes de fusées éclairantes pour avertir le commandant, pour justement lui faire entendre raison. Rien à faire. L'Écho, l'Argus et la Loire ne se feront pas piéger. Il est donc 15h lorsque la méduse s'échoue et on va essayer de la renflouer, on va essayer de tout faire pour la remettre à l'eau. On va donc commencer à démonter tout ce qui n'est pas nécessaire afin de fabriquer ce qui deviendra ce fameux radeau. Au tout départ, il n'était pas prévu qu'il supporte près de 160 personnes. Non, au départ, il devait supporter uniquement du matériel. Ça va très vite changer, croyez-moi. On parvient alors, vu qu'on allège un petit peu la méduse, à la faire bouger de près de 200 mètres. Seulement voilà, une tempête finit par balayer le navire et la repousser plus en hauteur sur le banc de sable. Cette fois-ci, c'en est fini, la carène est fracassée, elle commence à prendre de l'eau et la quille se brise. La méduse ne bouge alors plus du tout. Il va falloir abandonner le navire et se préparer à évacuer. Et c'est de cette évacuation que va naître le grand scandale de ce naufrage de la méduse. C'est ce que je me propose de vous raconter maintenant. Ça y est, la méduse ne bougera plus du tout. La quille vient de se briser. Il faut donc procéder au plus vite à son évacuation et donc à abandonner le navire. En secret, on a commencé à réfléchir et à préparer cette évacuation. De la méduse, on fait donc descendre plusieurs chaloupes. Et dans ces chaloupes, on va se répartir toute la population qui se trouvait jusqu'alors sur la frégate. En premier, il y a le canot du commandant. C'est le canot VIP, si on peut dire. Le canot sur lequel on va trouver non seulement le commandant, mais ses invités de marque. Hugues Duroy de Chaumaret va choisir du reste les meilleurs rameurs pour les accompagner. Sur les autres commandants, eh bien, on va trouver non seulement le commandant Schmalz, qui va devenir par la suite le gouverneur de Saint-Louis du Sénégal, mais également plusieurs hommes de troupe, les gens encore présentables. Et ensuite, eh bien, ceux qui sont encore sur la frégate La Méduse et qui ne peuvent donc plus se tenir dans les chaloupes, eh bien, tout cela, ils sont près de 160, vont devoir monter sur le grand radeau. Vous savez, ce radeau qui, au départ, devait porter uniquement du matériel. Ce radeau qu'on avait monté à la hâte en seulement 2 jours, en essayant de démonter, d'alléger la Méduse pour lui permettre de repartir. Autant vous dire que les oppositions se font fortes et qu'on doit même désarmer bon nombre des soldats avant que ceux-ci ne rejoignent bon gré mal gré ce fameux radeau. Ce radeau qui est bientôt chargé de pas loin de 152 personnes. Pour rassurer toute cette population qui est à touche-touche sur ce radeau, qui fait 20 mètres sur 7, on les a assurés qu'on allait tout simplement relier les chaloupes au radeau et que le radeau serait en queue de file et que donc toute cette petite compagnie rejoindrait donc ensuite les côtes de Saint-Louis du Sénégal. Il faut dire que la Méduse s'est échouée à pas loin de 48 km des côtes. Ce n'est quand même pas rien et que pour certaines des chaloupes, il faudra près de 15 jours d'une navigation exténuante afin d'y parvenir, justement. Or, il y a un problème et un problème d'importance. Certaines de ces chaloupes prennent l'eau et la plus grosse d'entre toutes est surchargée. Or, le radeau lui aussi est surchargé parce que s'il y a près de 151 personnes dessus, il y a aussi beaucoup de matériel, il y a des tonnelées de vin. Bref, la chaloupe et le radeau commencent à dériver. Ils menacent même les autres chaloupes. Il menace même de couper les filins qui relient les autres chaloupes entre elles. Pour ce faire, le commandant d'Espiot demande à la population entre la deuxième et la troisième chaloupe de laisser aller le filin, non pas de le lâcher tout à fait, mais de le laisser aller afin d'éviter une catastrophe. Seulement voilà, dans les autres chaloupes, on pense que le commandement de Despiau est un commandement général. Lâchez, dit-il, lâchez. Et on croit que c'est un ordre général. On lâche toutes les cordes. Et voilà que des hurlements de terreur, d'horreur, de colère retentissent sur le radeau. Ils nous ont abandonnés. Pourtant, le premier canot, celui du commandant Hugues Duroy de Chaumaret, semble faire route vers le radeau. Et puis le commandant hésite, et puis il finit par faire demi-tour. Il tient à garder dans son sillage celui du commandant Schmalz. Et pourtant, il reste quand même sur l'épave de la frégate La Méduse, il faut le dire. Il reste 17 personnes. Lorsqu'ils seront récupérés le 4 septembre, ils ne seront plus que 4. Gardez bien ça en tête. Les 151 personnes sur le radeau sont livrées à elles-mêmes. Il faut vous dire que le radeau n'est pas prévu pour supporter des jours et des semaines à dériver en mer. Il n'y a pas de bastingage et les planches du radeau épousent l'angle des vagues. Celle-ci désarçonne bon nombre des marins qui tombent et vont se noyer. La première nuit, la nuit du 4 au 5 juillet, est désastreuse. Certains des marins, pris de folie, décident alors de saborder le radeau afin de hâter une fin qu'ils pensent inévitable. C'est alors le début d'un affrontement dans la nuit. Les coups de sabre, les coups de hache pleuvent. Pourtant, on pensait que certains étaient venus sans leurs armes. Au petit matin, c'est une hécatombe. Le radeau va dériver. La faim les tenaille, la soif aussi, bien qu'ils aient les pieds, les jambes immergés dans l'eau et que les maigres repas, qui ne sont faits que de poissons volants, ne les satisfassent plus du tout. Alors on ronge les cordes, on mâche des morceaux de chapeau sur cette machine qu'ils ont féminisée, infernale. La chaleur les assomme, le soleil est brûlant. On essaie de se couvrir contre ce mât de fortune. On y a fait se mettre une petite voile pour essayer de se protéger du soleil. On a surélevé le centre du radeau. Au moins, ils n'ont plus les pieds dans l'eau. Seulement voilà, ils ressentent encore plus l'effet de la soif. Et là aussi, les rations vont commencer à manquer parce qu'il n'y a pas d'eau potable sur le radeau. Les seules rations disponibles, ce sont ces tonnelées de vin. Et du reste, lorsque toute cette population était encore sur la Méduse, bon nombre des marins et même le commandant du roi de Chaumaret lui-même étaient passablement avinés. Autant vous dire que la situation ne change pas sur la machine. Le désespoir les prend, la peur, l'inquiétude, mais c'est surtout le manque de nourriture qui les tenaille. Après tout, il y a des corps, là, qui jonchent la machine. Ces corps seraient consommables. Certains vont transgresser le tabou. Je ne vais pas vous faire le récit là des scènes de cannibalisme. Certains vont finir par boire leur propre liquide, leur propre sang, quand ils ne boivent pas de liquide plus répugnant. Le stock de nourriture se renouvelle à un rythme effréné sur la machine. La population se réduit comme peau de chagrin. Bientôt, il ne reste plus qu'une vingtaine d'âmes sur les près de 150 personnes présentes au départ. Ils vont alors tenir le plus sinistre des conseils. Après tout, les blessés n'ont aucune chance de s'en sortir. On préserverait encore plus la survie des autres. Ils vont donc les achever et se nourrir de leur corps. Ils ne savent plus ni quel jour on est, ni combien de temps ils ont passé sur la machine. Ils ne sont plus que 15 âmes. 15 hommes en rang d'oignon, allongés les uns contre les autres sur le radeau. Le 17 juillet, c'est l'euphorie. Un des marins a aperçu un bateau. Alors là, il y a comme une bouffée d'adrénaline. On arrache tout, les vêtements, on essaie de les accrocher au mât du radeau pour en faire des hampes. On se sert des quelques guenilles. On les secoue pour rappeler, pour marquer sa présence, pour se signaler. Mais horreur, malheur, le navire ne les repère pas. Alors, c'est la fin de tout. Les marins se laissent tomber sur le sol du radeau. Ils ne bougent plus, ils sont allongés les uns contre les autres. et il semble attendre la mort. Et pourtant, le navire revient. Car oui, ce navire, c'est le brick Largus, en mission de repérage, car il a quand même été envoyé par Hugues du Roy de Chaumarais. On ne croyait pas que le commandant se préoccupe de son équipage. Il a d'ailleurs persuadé que tous ceux qui étaient présents sur le radeau sont morts. Non, le brick Largus a été envoyé en mission de repérage pour repérer où se trouve l'épave de la Méduse, mais surtout pour récupérer près de 92 000 francs en pièces d'or et d'argent. Autant vous dire que lorsque l'Argus approche du radeau, les marins présents sur le navire n'en reviennent pas. 15 survivants qui semblent être plus morts que vifs et qui vont faire le récit de ce naufrage, le récit de cette évacuation. Et d'ailleurs, parmi ces 15, bon nombre de ceux qui vont réussir à monter dans l'Argus n'arriveront même pas à Saint-Louis du Sénégal. Hugues du Roy du Chaumarais, lui, a fini par atteindre les côtes du Sénégal. Après 15 jours d'une navigation exténuante, il a fini avec ses meilleurs rameurs et ses invités de marque à atteindre les côtes. Oh, il a fini par trouver des tuniques et des épices et tout un tas de présents du plus bel effet qu'il compte bien faire parvenir au roi et au ministre. Il compte aussi s'assurer de l'emplacement de la Méduse et c'est pour cela qu'il a envoyé en mission de repérage le brick Largus. Il faut savoir que lorsque Hugues du Roy de Chaumarais accoste et arrive en vue des côtes du Sénégal, les briques l'Écho, l'Argus et la Loire l'ont déjà devancé et ont déjà accosté. Mais c'est justement de ces récits, des récits des survivants, que va naître le choc qui va condamner Hugues du Roy de Chaumarais, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les premiers témoignages rapportés des survivants s'affichent en une du très critique journal des débats. Et ces témoignages font sensation, on n'omet rien. Rien n'est caché, rien n'est dissimulé, tout est raconté. Même les pires scènes de cannibalisme. Même l'évacuation de la Méduse, cette liste secrète. Et Hugues du Roy de Chaumarais, qui contre toutes les consignes et contre l'honneur, abandonne son navire, alors qu'en tant que commandant, il aurait dû rester dessus. Il aurait dû être parmi ces 17 hommes qui sont restés sur la frégate La Méduse et qui seront récupérés au final le 4 septembre. Des 17 hommes qui ont été laissés sur la frégate, on n'en récupérera que 4. Or, c'est de ces témoignages monstrueux qui saisissent jusqu'aux larmes tous ceux qui les lisent et qui vont bouleverser non seulement la société française, mais qui vont presque signer le début de la fin de ce régime qu'est la Restauration. On ne peut laisser ainsi Hugues du Roy de Chaumarais s'en sortir, vous vous en doutez bien. Il va être jugé par ses pairs. Il va être jugé et il va être justement condamné. Hugues du Roy de Chaumarais va être rayé des cadres de la marine. Il ne sera plus dans le service actif. Les décorations qu'il porte, que ce soit l'ordre de Saint-Louis ou encore la Légion d'honneur, vont lui être retirées. Il va avoir une peine d'emprisonnement de 3 années qu'il effectuera au fort de Ham. Mais c'est surtout un homme fini, un homme dégradé, un homme qui ne reconnaît qu'à demi-mot sa responsabilité dans l'échouage de la Méduse et dans l'évacuation honteuse de celle-ci dont il est question. Hugues du Roy de Chaumarais devient donc, quelques semaines après la publication de ses premiers témoignages, presque l'ennemi public numéro 1. C'est un royaliste. Voyez donc où mène la monarchie, à un désastre. C'est à peine à demi-mot ce qui se dit dans bon nombre de cercles. La Restauration est en train de vaciller. Et c'est de ce fait divers que va se saisir un peintre, que va se saisir Théodore Géricault. Théodore Géricault a eu vent, bien entendu, des témoignages. Il va n'avoir de cesse de les solliciter pour retranscrire au plus juste, justement, un des épisodes de la Méduse. Si vous regardez bien la toile, vous remarquerez que bon nombre des naufragés présents sur le radeau secouent des guenilles. On peut donc se dire que c'est le tout dernier moment qui les laisse encore présents sur la machine où eux, ils voient, mais nous on pense le deviner, le brick Largus qui est présent au loin, qui se rapproche d'eux. Et là, pris d'un élan, avec de l'adrénaline, ils secouent dans les dernières forces qu'ils ont, tout ce qu'ils ont à porter, des vêtements, des guenilles, tout ce qui leur permet de se signaler. La toile est sombre. Les corps se contorsionnent de douleur. Géricault veut rendre une toile des plus réalistes possibles. Il va donc mettre près de 2 ans à la réaliser et il va la présenter au salon, comme on disait à l'époque. Et d'ailleurs, le roi Louis XVIII lui-même viendra la voir. Et il lui dira ceci. « Voilà une toile qui ne fera pas le naufrage de celui qui l'a peint », lui aurait-il dit. Et en effet, le radeau de la Méduse ne causera pas le naufrage de Théodore Géricault, bien au contraire. Seulement voilà, si le maître est doué pour reproduire les parties du corps que l'on voit, les torses, les bras, les têtes, dans des expressions les plus réaliste possible, il y a une seule chose que Géricault ne sait pas faire. Il ne sait pas représenter les pieds. C'est donc pour cela que ceux-ci n'apparaissent pas directement en pleine lumière sur la toile. Le radeau de la Méduse est donc une des toiles vedettes, sinon la vedette principale de ce salon 1819. La toile est immense. C'est une des plus grandes, sinon la plus grande, qui est encore exposée aujourd'hui au Louvre. Seulement voilà, elle a une particularité. Les pigments utilisés par Théodore Géricault s'assombrissent au fil des années. Si bien que dans quelques années, dans quelques centaines d'années, on ne pourra bientôt plus ni distinguer le radeau, ni l'Argus, ni quoi que ce soit. La toile ne sera bientôt qu'un monochrome sombre. Or, imaginer que l'on perdrait un tel chef-d'œuvre est fort regrettable. Théodore Géricault a voulu montrer un fait divers, mais pas seulement un fait divers comme on en trouve dans les journaux de l'époque. Non, il a voulu montrer combien ce fait divers-là a pu presque causer la perte du régime. Tant c'est bien cela dont il a fallu être question. Si vous voulez aujourd'hui vous faire une idée du radeau de la Méduse, sachez qu'une reproduction à taille réelle existe de ce radeau et que vous pouvez donc vous figurer de la place qu'ont eu ces 151 personnes durant presque 13 jours ballottées, dérivant sur la mer Méditerranée. J'espère que cet épisode et que ce récit vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, pour un nouveau récit des Bulles de l'Histoire.